Chapitre 14. Olivier de Charny. La reine, en entrant dans son boudoir, y trouva celui qui avait écrit le billet apporté par sa femme de chambre. C'était un homme de 35 ans, d'une haute taille, d'un visage accusant la force et la résolution. Son œil gris-bleu, vif et perçant comme celui de l'aigle, son nez droit, son menton fortement accusé, donnaient à sa physionomie un caractère martial, rehaussé par l'élégance avec laquelle il portait l'habit de lieutenant aux gardes du corps. Ses mains tremblaient encore sous ses manchettes de batiste déchirées et froissées. Son épée avait été tordue et rentrait mal dans le fourreau. À l'arrivée de la reine, le personnage marchait précisément dans le boudoir, en proie à 1000 pensées de fièvre et d'agitation. Marie-Antoinette alla droit à lui. « Monsieur de Charny » s'écria-t-elle, « Monsieur de Charny, vous ici !» En voyant que celui qu'elle interpellait ainsi s'inclinait respectueusement, selon l'étiquette, elle fit signe à la femme de chambre qui se retira en fermant les portes. La reine donna à la porte à peine le temps de se fermer et, saisissant la main de monsieur de Charny avec force, « Comte !» s'écria-t-elle, « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Parce que j'ai cru que c'était mon devoir d'y venir, madame, » dit le comte. « Non, votre devoir, c'était de fuir Versailles, c'était de faire ce qui était convenu, c'était de m'obéir, c'était de faire enfin comme tous vos amis qui ont peur pour ma fortune. Votre devoir, c'est de ne rien sacrifier à mon destin, votre devoir, c'est de vous éloigner de moi. »« De m'éloigner de vous, » dit-il. « Oui, de me fuir. » »« De vous fuir. Et qui donc vous fuit, madame ? Ceux qui sont sages. » « Je crois être bien sage, madame, et voilà pourquoi je suis venu à Versailles. »« Et d'où arrivez-vous ? » ?»« De Paris. »« De Paris révolté ? » ?»« De Paris bouillant, ivre, ensanglanté. » La reine mit ses deux mains sur son visage. « Oh, dit-elle, pas un, même vous, ne viendra donc pour m'annoncer une bonne nouvelle ?»« Madame, dans les circonstances où nous sommes, demandez à vos messagers de ne vous annoncer qu'une chose, la vérité. » « Et c'est la vérité que vous venez de me dire, comme toujours, madame. Vous êtes une âme honnête, monsieur, un brave cœur. Je suis un sujet fidèle, madame, voilà tout. Eh bien, grâce pour le moment, mon ami, ne me dites pas un mot. Vous arrivez au moment où mon cœur se brise. Mes amis, pour la première fois, m'accablent aujourd'hui avec cette vérité que vous m'avez toujours dite. Oh, cette vérité, comte, il était impossible de me la taire plus longtemps. Elle éclate dans tout, dans le ciel qui est rouge, dans l'air qui s'emplit de bruits sinistres, dans la physionomie des courtisans qui sont pâles et sérieux. Ah non, non, comte, pour la première fois de votre vie, ne me dites pas la vérité. » Le comte regarda la reine à son tour. « Oui, oui, dit-elle, vous qui me savez brave, vous vous étonnez, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, allez !» Monsieur de Charny laissa échapper un geste interrogateur. « Vous verrez tout à l'heure, dit la reine avec un sourire nerveux. « Votre Majesté souffre ? Demanda le comte. « Non, non, monsieur, venez vous asseoir près de moi et plus un mot sur toute cette affreuse politique. Tâchez que je l'oublie. » Le comte obéit avec un triste sourire. Marie-Antoinette posa sa main sur son front. « Votre front brûle, » dit-elle. « Oui, j'ai un volcan dans la tête. Votre main est glacée. » Et elle pressa la main du comte entre les deux siennes. « Mon cœur est touché du froid de la mort, » dit-il. « Ah, pauvre Olivier, je vous l'avais bien dit. Oublions, je ne suis plus reine, je ne suis plus menacée, je ne suis plus haïe. Non, je ne suis plus reine, je suis femme, voilà tout. L'univers, qu'est-ce que pour moi, un cœur qui m'aime, cela me suffirait. » Le comte se mit à genoux devant la reine et lui baisa les pieds avec ce respect que les Égyptiens avaient pour la reine Isis. « Oh, comte, mon seul ami, » dit la reine en essayant de le relever, « savez-vous ce que me fait la duchesse Diane ?»« Elle est migre, » répondit Charny sans hésiter. « Il a deviné, » s'écria Marie-Antoinette, « il a deviné, hélas, on pouvait donc deviner cela ?»« Oh, mon Dieu, oui, madame, » répondit le comte, « tout peut s'imaginer en ce moment. »« Vous et les vôtres, s'écria la reine, pourquoi n'émigrez-vous pas, puisque c'est chose si naturelle? Moi d'abord, madame, je n'émigre point, parce que je suis profondément dévoué à votre majesté, et que je me suis promis, non pas à elle, mais à moi-même, de ne pas la quitter un seul instant pendant l'orage qui se prépare. Mes frères n'émigreront pas, parce que ma conduite sera l'exemple sur lequel ils régleront la leur. Enfin, madame de Charny n'émigrera pas, parce qu'elle l'aime sincèrement, je le crois du moins, votre majesté. Oui, André est un cœur très noble, dit la reine, avec une froideur visible. Voilà pourquoi elle ne quittera point Versailles, répondit monsieur de Charny. Alors je vous aurai toujours près de moi, dit la reine de ce même ton glacial qui était nuancé pour ne laisser sentir que sa jalousie ou son dédain. Votre majesté m'a fait l'honneur de me nommer lieutenant des gardes, dit le comte de Charny. Mon poste est à Versailles. Je n'eusse point quitté mon poste si votre majesté ne m'avait donné la garde des Tuileries. C'est un exil nécessaire, m'a dit la reine, et je suis parti pour cet exil. Or, dans tout cela, votre majesté le sait, madame la comtesse de Charny ne m'a pas plus approuvé qu'elle m'a consulté. C'est vrai, répondit la reine, toujours glacée. Aujourd'hui, continua le comte avec intrépidité, je crois que mon poste n'est plus aux Tuileries, mais à Versailles. Eh bien, n'en déplaise à la reine, j'ai violé ma consigne, choisissant ainsi mon service, et me voici. Que madame de Charny ait ou n'ait pas peur des événements, qu'elle veuille ou ne veuille pas émigrer, moi je reste auprès de la reine, à moins que la reine ne brise mon épée, auquel cas, n'ayant plus le droit de combattre et de mourir pour elle sur le parquet de Versailles, j'aurai toujours celui de me faire tuer à la porte sur le pavé. » Le jeune homme prononça si vaillamment, si loyalement, ces mots simples et partis du cœur, que la reine tomba du haut de son orgueil, retraite derrière laquelle elle venait de chercher un sentiment plus humain que royal. « Comte, dit-elle, ne prononcez jamais ce mot, ne dites pas que vous mourrez pour moi, car en vérité, je sais que vous le ferez comme vous le dites. » « Oh, je le dirai toujours au contraire, s'écria monsieur de Charny, je le dirai à tous et en tout lieu, je le dirai comme je le ferai, parce que le temps est venu, j'en ai bien peur, où doivent mourir tous ceux qui ont aimé les rois de la terre. » « Comte, comte, qui donc vous donne ce fatal pressentiment ?»« Hélas, madame, répondit Charny, en secouant la tête, et moi aussi, à l'époque de cette fatale guerre d'Amérique, j'ai été atteint, comme les autres, de cette fièvre d'indépendance qui a couru par toute la société. Moi aussi, j'ai voulu prendre une part active à l'émancipation des esclaves, comme on disait à cette époque, et je me suis fait recevoir maçon. Je me suis affilié à une société secrète avec les Lafayette, les Lamette. Savez-vous quel était le but de cette société, madame? La destruction des trônes. Savez-vous quelle était sa devise? Trois lettres. L.P.D. Et que voulaient dire ces trois lettres? Lilia pedibus destrué, foulez aux pieds les lys. Alors, qu'avez-vous fait? Je me suis retiré avec honneur, mais pour un qui se retirait, vingt se faisaient recevoir. Eh bien, ce qui arrive aujourd'hui, madame, c'est le prologue du grand drame qui se prépare en silence et dans la nuit depuis 20 ans. À la tête des hommes qui remuent Paris, qui gouvernent l'hôtel de ville, qui occupent le palais royal, qui ont pris la Bastille, j'ai reconnu les figures de mes anciens frères, les affiliés. Ne vous y trompez pas, madame. Tous ces accidents qui viennent de s'accomplir, ce ne sont point des accidents du hasard. Ce sont des soulèvements préparés de longue main. Oh, vous croyez, mon ami, s'écria la reine en fondant en larmes. Ne pleurez pas, madame. Comprenez, dit le comte. Que je comprenne, continua Marie-Antoinette, que moi, la reine, que moi, la maîtresse née de 25 millions d'hommes, que je comprenne que, quand ces 25 millions de sujets faits pour m'obéir se révoltent et me tuent mes amis, non, jamais, je ne comprendrai jamais cela. Il faut cependant bien que vous le compreniez, madame, car à ces sujets, à ces hommes nés pour vous obéir, du moment où cette obéissance leur pèse, vous êtes devenue une ennemie, et en attendant qu'ils aient la force de vous dévorer, ce à quoi ils aiguisent leurs dents affamées, ils dévoreront vos amis, détestés plus que vous encore. Et peut-être allez-vous trouver qu'ils ont raison, vous, monsieur le philosophe, s'écria impérieusement la reine, l'œil dilaté, les narines frémissantes. Hélas, oui, madame, ils ont raison. dit le comte de sa voix douce et affectueuse, car lorsque je me promène par les boulevards avec mes beaux chevaux anglais, mon habit d'or et mes gens galonnés, de plus d'argent qu'il n'en faudrait pour nourrir trois familles, votre peuple, c'est-à-dire ces 25 millions d'hommes affamés, se demandent en quoi je les sers, moi qui ne suis qu'un homme pareil à eux. Vous les servez, comte, avec ceci, s'écria la reine en saisissant la poignée de l'épée du comte. Vous le servez avec cette épée que votre père a maniée en héros à Fontenoy, votre grand-père à Stanikerque, votre aïeul à Lens et à Rocroi, vos ancêtres à Ivry, à Marignan, à Azincourt. La noblesse sert le peuple français par la guerre. Par la guerre, la noblesse a gagné, au prix de son sang, l'or qui chamarre ses habits, l'argent qui recouvre ses livré. Ne vous demandez donc plus, Olivier, en quoi vous servez le peuple, vous qui maniez à votre tour, en brave, cette épée que vous ont léguée vos pères. Madame, madame, dit le comte en secouant la tête, ne parlez pas tant du sang de la noblesse. Le peuple aussi a du sang dans les veines. Allez en voir les ruisseaux coulant sur la place de la Bastille. Allez compter ces morts étendus sur le pavé rougi. Et sachez que leur cœur, qui ne bat plus, a battu aussi noblement que celui d'un chevalier le jour où vos canons tonnaient contre lui, le jour où, brandissant une arme nouvelle pour sa main inhabile, il chantait sous la mitraille, ce que ne font pas toujours nos plus braves grenadiers. Et madame, et ma reine, ne me regardez point, je vous en supplie, avec cet œil courroucé. Qu'est-ce qu'un grenadier? C'est un habit bleu chamarré sur ce cœur dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'importe au boulet qui troue et qui tue, que le cœur soit couvert de drap bleu ou d'un lambeau de toile. Qu'importe au cœur qui se brise, que la cuirasse qui le protégeait soit de toile ou de drap. Le temps est venu de songer à tout cela, madame. Vous n'avez plus 25 millions d'esclaves en France. Vous n'avez plus 25 millions de sujets. Vous n'avez même plus 25 millions d'hommes. Vous avez 25 millions de soldats qui combattront contre moi, comte? Oui, contre vous, car ils combattront pour la liberté et vous êtes entre eux et la liberté. Un long silence succéda aux paroles du comte. La reine le rompit la première. Enfin, dit-elle, cette vérité que je vous suppliais de ne pas me dire, voilà donc que vous me l'avez dite. « Hélas, madame, répondit Charny, sous quelque forme que mon dévouement la cache, sous quelque voile que mon respect l'étouffe, malgré moi, malgré vous, regardez, écoutez, sentez, touchez, pensez, rêvez, la vérité est là, madame, éternellement là, et vous ne la séparerez plus de vous-même, quelques efforts que vous fassiez. » Dormez, dormez pour l'oublier, et elle s'assoira au chevet de votre lit, et ce sera le fantôme de vos rêves, la réalité de votre sommeil. Oh, comte, dit fièrement la reine, je sais un sommeil qu'elle ne troublera point. Celui-là, madame, dit Olivier, je ne le crains pas plus que votre majesté, et peut-être que je le désire autant qu'elle. Oh, fit la reine avec désespoir, à votre avis, c'est donc notre seul refuge. « Oui, mais ne précipitons rien, madame, ne marchons pas plus vite que les ennemis, car nous allons tout droit à ce sommeil par les fatigues que nous font tant de jours d'orage. » Et un nouveau silence, plus sombre encore que le premier, pesa sous les deux interlocuteurs. Ils étaient assis, lui près d'elle, elle près de lui. Ils se touchaient, et cependant entre eux il y avait un abîme immense, leurs pensées qui couraient divisées sur les vagues de l'avenir. La reine revint la première au sujet de l'entretien, mais par un détour. Elle regarda fixement le comte. Et puis, « Voyons, monsieur, dit-elle, un dernier mot sur nous, et vous me direz tout, 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 entendez-vous bien ?»« J'écoute, madame. Vous me jurez que vous n'êtes venu ici que pour moi. Vous en doutez ? Vous me jurez que madame de Charny ne vous a point écrit ?» Elle? Écoutez, je sais qu'elle allait sortir, je sais qu'elle avait une idée dans l'esprit. Jurez-moi, comte, que ce n'est point pour elle que vous êtes revenu. En ce moment, on frappa, ou plutôt on gratta à la porte. André, dit la reine. La femme de chambre reparut. Madame, dit-elle, le roi a soupé. Le comte regarda Marie-Antoinette avec étonnement. « Eh bien, dit-elle, en haussant les épaules, qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Ne faut-il pas que le roi soupe ?» Olivier fronça le sourcil. Dites au roi, répliqua la reine sans se déranger, que je reçois des nouvelles de Paris et que j'irai lui en faire part quand je les aurai reçues. Puis, se retournant vers Charny, continuons, dit-elle, maintenant que le roi a soupé, il est juste qu'il digère. Cette interruption avait apporté une suspension momentanée dans la conversation, mais n'avait altéré en rien le double sentiment de jalousie qui animait la reine en ce moment. Jalousie d'amour comme femme, jalousie de pouvoir comme reine. Il en résultait que la conversation, qui semblait épuisée dans cette première période, n'avait été au contraire qu'effleurée et qu'elle allait se ranimer, plus incisive que jamais, comme dans une bataille, après la cessation du premier feu qui a engagé l'action sur quelques points, reprend sur toute la ligne le feu général qui la décide. Le comte semblait au reste, les choses arrivées à ce point, aussi pressé que la reine d'avoir une explication. Aussi, la porte refermée, fut celui qui s'empara le premier de la parole. « Vous me demandiez si c'était pour Madame de Charny que j'étais revenu, dit-il. Votre Majesté a-t-elle donc oublié que des engagements ont été pris entre nous et que je suis un homme d'honneur ?»« Oui, dit la reine en penchant la tête, oui, des engagements ont été pris. Oui, vous êtes un homme d'honneur. Oui, vous avez juré de vous immoler à mon bonheur. Et c'est ce serment qui me dévore. » Car en vous immolant à mon bonheur, vous immolez en même temps une femme belle et d'un caractère noble, un crime de plus. Oh, madame, voilà maintenant que vous exagérez l'accusation. Avouez seulement que j'ai tenu ma parole en honnête homme. C'est vrai, je suis insensé, pardonnez-moi. N'appelez pas un crime ce qui est né du hasard et de la nécessité. Nous avons déploré tous deux ce mariage qui seul pouvait mettre à couvert l'honneur de la reine. Ce mariage, il ne s'agit plus que de le subir, comme je le fais depuis 4 ans. « Oui, s'écria la reine, mais croyez-vous que je ne vois pas votre bonheur, que je ne comprenne pas votre chagrin qui se traduise sous la forme du plus profond respect? Croyez-vous que je ne vois pas tout ?»« Par grâce, madame, fit le comte en s'inclinant, faites-moi part de ce que vous voyez, afin que, si je n'ai point assez souffert moi-même et assez fait souffrir les autres, je double la somme des maux pour moi et pour tous ceux qui m'entourent, bien assuré que je suis d'être éternellement au-dessous de ce que je vous dois. » La reine étendit la main vers le comte. La parole de cet homme avait une puissance irrésistible, comme tout ce qui émane d'un cœur sincère et passionné. « Ordonnez, madame, reprit-il, je vous en conjure, ne craignez pas d'ordonner. « Oh, oui, oui, je le sais bien, j'ai tort, oui, pardonnez-moi, oui, c'est vrai. » Mais si vous avez quelque part une idole sacrée à qui vous offrez un encens mystérieux, si pour vous il est dans un coin du monde une femme adorée, je n'ose plus prononcer ce mot, il me fait peur, et j'en doute quand les syllabes dont il se compose frappent l'air et vibrent à mon oreille, eh bien, si cela existe, caché à tous, n'oubliez pas que vous avez devant vous, que vous avez publiquement pour les autres et aussi pour vous, une femme jeune et belle, que vous entourez de soins, d'assiduité, une femme qui s'appuie sur votre bras et qui, en s'appuyant sur votre bras, s'appuie en même temps sur votre cœur. » Olivier fronça le sourcil et les lignes si pures de son visage s'altérèrent un instant. « Que demandez-vous, madame, dit-il, est-ce que j'éloigne la comtesse de Charny ? Vous taisez, c'est donc cela ? Eh bien... « Je suis prêt à obéir à cet ordre, mais vous le savez, elle est seule au monde, elle est orpheline. Son père, le baron de Tavernet, est mort l'an dernier, comme un digne gentilhomme du vieux temps qui ne veut pas voir ce qui se passe dans le nôtre. Son frère, vous savez que son frère Maison Rouge apparaît une fois l'an tout au plus, vient embrasser sa sœur, saluer votre majesté, et s'en va sans que nul ne sache ce qu'il devient. » « Oui, je sais tout cela. Réfléchissez, madame, que cette comtesse de Charny, si Dieu m'appelait à lui, pourrait reprendre aujourd'hui son nom de jeune fille, sans que le plus pur des anges du ciel, surpris dans ses rêves, dans sa pensée, un mot, un nom, un souvenir de femme. « Oui, 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 dit la reine, je sais que votre André est un ange sur la terre, je sais qu'elle mérite d'être aimée. Voilà pourquoi je pense que l'avenir est à elle, tandis qu'il m'échappe à moi. Oh non, non, tenez compte, tenez, je vous en conjure, plus un mot, je ne vous parle pas en reine, pardonnez-moi, je me suis oublié, mais que voulez-vous? Il y a dans mon âme une voix qui chante toujours le bonheur, la joie, l'amour, à côté de ces sinistres voix qui murmurent le malheur, la guerre, la mort. C'est la voix de ma jeunesse à laquelle je survis. Charny, pardonnez-moi, je ne serai plus jeune, je ne sourirai plus, je n'aimerai plus. » Et la malheureuse femme appuya ses yeux brûlants sur ses mains amaigries et effilées, et une larme de reine, un diamant, glissa entre chacun de ses doigts. Le comte, encore une fois, se laissa tomber à genoux. « Madame, au nom du ciel, dit-il, ordonnez-moi de vous quitter, de fuir, de mourir, mais ne me laissez pas voir que vous pleurez. » Et le comte lui-même était prêt de sangloter en prononçant ces paroles. « C'est fini, dit Marie-Antoinette en se relevant et en secouant doucement la tête avec un sourire plein de grâce. Et d'un geste charmant, elle jeta en arrière ses épais cheveux poudrés qui s'étaient déroulés sur son cou d'une blancheur de cygne. « Oui, oui, c'est fini, continua la reine, je ne vous affligerai plus. Laissons là toutes ces folies. Mon Dieu, c'est étrange que la femme soit si faible quand la reine a si grand besoin d'être forte. Que veniez-vous de Paris, n'est-ce pas? Causons. Vous m'avez dit des choses que j'ai oubliées. C'était cependant bien sérieux, n'est-ce pas, monsieur de Charny? Soit, madame, revenons à cela, car comme vous le dites, ce que j'ai vu à Paris est bien sérieux, oui. J'arrive de Paris et j'ai assisté à la ruine de la royauté. J'avais raison de provoquer le sérieux, car vous me le donnez sans compter, monsieur de Charny. Une émeute heureuse, vous appelez cela la ruine de la royauté? Quoi, parce que la Bastille a été prise, monsieur de Charny, vous dites que la royauté est abolie? Vous ne réfléchissez pas que la Bastille n'a pris racine en France qu'au XIVe siècle et que la royauté a des racines de 6 000 ans partout l'univers. « Je voudrais pouvoir me faire illusion, madame, répondit le comte, et alors, au lieu d'attrister l'esprit de votre majesté, je proclamerai les plus consolantes nouvelles, mais malheureusement, l'instrument ne rend pas d'autres sons que ceux pour lesquels il fut destiné. Voyons, voyons, je vais vous soutenir, moi qui ne suis qu'une femme, je vais vous remettre sur le bon chemin. Hélas, je ne demande pas mieux. Les Parisiens sont révoltés, n'est-ce pas? Oui. Dans quelle proportion? Dans la proportion de 12 sur 15. Comment faites-vous ce calcul? Oh, bien simplement, le peuple entre pour 12/15 dans le corps de la nation, il reste 2/15 pour la noblesse et 1 pour le clergé. Le calcul est exact, comte. Vous savez votre compte rendu sur le bout des doigts. Vous avez lu, monsieur et madame de Necker? Monsieur Necker, oui, madame. Alors le proverbe est bon, dit gaiement la reine, on n'est jamais trahi que par les siens. Eh bien, voilà maintenant mon calcul à moi. Voulez-vous l'entendre? Avec respect. Sur 12/15, 6 de femmes, n'est-ce pas? Oui, votre majesté, mais ne m'interrompez pas. Nous disons 6/15 de femmes. Reste 6. 2 de vieillards impotents ou indifférents. Estro? Non. Reste à 4/15, sur lesquels vous m'en accorderez bien 2 de poltrons et de tièdes. Je flatte la nation française. Mais enfin 2/15, je vous les accorde enragés, solides, vaillants et militaires. Ces 2/15, évaluons-les pour Paris, car pour la province, c'est inutile, n'est-ce pas? C'est Paris seulement qu'il s'agit de reprendre. Mais oui, madame, mais toujours, mais attendez, vous répondrez plus tard. Monsieur de Charny s'inclina. « J'évalue donc, continua la reine, les 2/15 de Paris à 100 000 hommes. Le voulez-vous ? » Cette fois, le marquis ne répondit pas. La reine reprit. « Eh bien, à ces 100 000 hommes mal armés, indisciplinés, peu aguerris, hésitants parce qu'ils savent qu'ils font mal, j'oppose 50 000 soldats, connus dans toute l'Europe pour leur bravoure, des officiers comme vous, monsieur de Charny. » De plus, cette cause sacrée que l'on appelle le droit divin, et enfin, mon âme à moi, qu'il est facile d'attendrir, mais difficile de briser. Le comte garda encore le silence. Croyez-vous, continua la reine, que dans un combat livré sur ce terrain, 2 hommes du peuple valent plus qu'un de mes soldats? Charny se tut. Dites, répondez, le croyez-vous? S'écria la reine avec impatience. Madame, répondit enfin le comte, sortant, à l'ordre de la reine, de la respectueuse réserve où il était tenu, sur un champ de bataille où comparaîtraient ces 100 000 hommes isolés, indisciplinés et mal armés comme ils sont, vos 50 000 soldats les battraient en une demi-heure. Ah, fit la reine, j'ai donc raison. Attendez, mais il n'en est pas comme vous le pensez. D'abord, vos 100 000 révoltés de Paris sont 500 000. 500 000? Tout autant, vous avez négligé les femmes et les enfants dans votre calcul. Non. Reine de France, aux femmes courageuses et fières, comptez-les pour autant d'hommes, ces femmes de Paris. Un jour viendra peut-être où elles vous forceront de les compter comme autant de démons. Que voulez-vous dire, comte? Madame, savez-vous ce que c'est que le rôle d'une femme dans les guerres civiles? Non? Eh bien, je m'en vais vous l'apprendre, et vous verrez que ce ne serait pas trop de 2 soldats contre chaque femme. Comte, êtes-vous fou? Charny sourit tristement. Les avez-vous vus à la Bastille? Demanda-t-il, sous le feu, au milieu des balles, criant aux armes, menaçant de leurs poings vos Suisses, caparaçonnés en guerre, criant malédiction sur le cadavre des morts avec cette voix qui fait bondir les vivants? Les avez-vous vus faisant bouillir la poix, roulant les canons, donnant aux combattants enivrés une cartouche, aux combattants timides une cartouche et un baiser? Savez-vous que sur le pont-levis de la Bastille, il a passé autant de femmes que d'hommes, et qu'à cette heure, si les pierres de la Bastille s'écroulent, c'est sous le pic, manié par des mains de femmes? Ah, madame, comptez les femmes de Paris, comptez-les. Comptez aussi les enfants qui fondent les balles, qui aiguisent les sabres, qui jettent un pavé du 6e étage. Comptez-les, car la balle qu'un enfant aura fondue ira tuer de loin votre meilleur général, car le sable qu'il aura aiguisé coupera les jarrets de vos chevaux de guerre, car ce grès aveugle qui tombera du ciel écrasera vos dragons et vos gardes. Comptez les vieillards, madame, car s'ils n'ont plus la force de lever une épée, ils ont encore celle de servir de bouclier. À la Bastille, madame, il y avait des vieillards. Savez-vous ce qu'ils faisaient, ces vieillards, que vous ne comptez plus? Ils se plaçaient devant les jeunes gens, qui appuyaient leurs fusils sur leur épaule, de sorte que la balle de vos Suisses venait tuer le vieillard impotent, dont le corps faisait un rempart à l'homme valide. Comptez les vieillards, car ce sont eux qui, depuis 300 ans, racontent aux générations qui se succèdent les affronts subis par leurs mères, la misère de leurs champs rongés par le gibier du noble, la honte de leur caste courbée sous les privilèges féodaux. Et alors les fils saisissent la hache, la massue, le fusil, tout ce qu'ils trouvent enfin, et s'en vont tuer, instruments chargés des malédictions du vieillard, comme le canon est chargé de la poudre et de fer. À Paris, dans ce moment, hommes, femmes, vieillards, enfants crient « liberté, délivrance ». Comptez tous ceux qui crient, madame, comptez 800 000 âmes à Paris. 300 Partiates ont vaincu l'armée de Xerxès, monsieur de Charny. Oui, mais aujourd'hui, vos 300 Spartiates sont 800 000, madame, et vos 500 000 soldats, voilà l'armée de Xerxès. La reine se leva, les poings crispés, le visage rouge de colère et de honte. « Ah, que je tombe du trône, dit-elle, que je meure mise en pièces par vos 500 000 Parisiens, mais que je n'entende pas un Charny, un homme à moi, parler ainsi. » « Si je vous parle ainsi, madame, c'est qu'il le faut, car ce Charny n'a pas dans les veines une goutte de sang qui ne soit digne de ses aïeux et qui ne vous appartienne. Alors qu'il marche donc sur Paris avec moi, et nous y mourrons ensemble. » « Honteusement, dit le comte, sans lutte possible, nous ne combattrons même pas, nous disparaîtrons comme les Philistins ou des Amalécites. Marchez sur Paris, mais vous ne savez donc pas une chose, c'est qu'au moment où nous entrerons dans Paris, les maisons s'écrouleront sur nous comme les flots de la mer Rouge sur Pharaon, et vous laisserez en France un nom maudit et vos enfants seront tués comme ceux d'une louve. » « Comment faut-il que je tombe, comte ? Dit la reine avec hauteur. « Enseigne-le-moi, je vous prie. »« En victime, madame, répondit respectueusement monsieur de Charny, comme tombe une reine, en souriant et en pardonnant à ceux qui la frappent. Ah, si vous aviez 500 000 hommes comme moi, je vous dirais, partons, partons cette nuit, partons à l'instant même, et demain vous régneriez aux Tuileries, demain vous aurez reconquis votre trône. » « Oh ! S'écria la reine, vous avez donc désespéré, vous, en qui j'avais mis mon dernier espoir ? Oui, j'ai désespéré, madame, parce que toute la France pense comme Paris, parce que votre armée, fût-elle victorieuse de Paris, serait engloutie par Lyon, Rouen, Lille, Strasbourg, Nantes et 100 autres villes dévorantes. Allons, allons, du courage, madame, l'épée au fourreau. Ah, voilà donc pourquoi, dit la reine, j'aurais rassemblé autour de moi tant de braves gens, voilà pourquoi je leur aurais soufflé le courage. Si tel n'est pas votre avis, madame, ordonnez, cette nuit même, nous marcherons contre Paris. Dites. Il y avait tant de dévouement dans cette offre du comte qu'elle effraya plus la reine que ne lui fait un refus. Elle se jeta désespérée sur un sofa où elle lutta longtemps contre sa fierté. Enfin, relevant la tête, comte, dit-elle, vous désirez que je reste inactive? J'ai l'honneur de le conseiller à votre majesté. Ce sera fait. Revenez. Hélas, madame, je vous ai fâchée, dit le comte en regardant la reine avec une tristesse imprégnée d'un indicible amour. Non, votre main, le comte tendit en s'inclinant la main à la reine. Que je vous gronde, dit Marie-Antoinette en essayant de sourire. Et de quoi, madame? Comment, vous avez un frère au service et je l'apprends par hasard? Je ne comprends pas. Ce soir, un jeune officier aux hussards de Bercheny. Ah, mon frère Georges. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ce jeune homme? Pourquoi n'a-t-il pas un grade élevé dans un régiment? Parce qu'il est tout jeune et tout inexpérimenté encore, parce qu'il n'est pas digne de commander en chef, parce qu'enfin, si votre majesté a bien voulu abaisser ses regards sur moi, qui me nomme Charny, pour m'honorer de son amitié, ce n'est point une raison pour que je place ma famille aux dépens d'une foule de braves gentilshommes plus dignes que mes frères. Vous avez donc un autre frère encore? Oui, madame, et prêt à mourir pour votre majesté, comme les deux autres. Il n'a besoin de rien? De rien, madame. Nous avons le bonheur d'avoir non seulement une existence, mais encore une fortune à mettre aux pieds de votre majesté. Comme il disait ces dernières paroles, la reine, toute pénétrée de cette probité délicate, lui, tout palpitant de cette gracieuse majesté, un gémissement parti de la chambre voisine les éveilla en sursaut. La reine se leva, courut à la porte, l'ouvrit et poussa un grand cri. Elle venait d'apercevoir une femme qui se tordait sur le tapis en proie à des convulsions terribles. Oh, la comtesse, dit-elle tout bas à monsieur de Charny, elle nous aura entendus. Non, madame, répondit celui-ci, sans quoi elle eût prévenu votre majesté qu'on pouvait nous entendre. Et il s'élança vers André, qu'il souleva dans ses bras. La reine se tint à deux pas, froide, pâle, palpitante d'anxiété.